Garde mon cœur. Ce n'est pas une prédication pour la Saint-Valentin, bien que le 14 février n'est pas très loin. Ce n'est pas non plus une prédication pour vous mettre en garde contre l'usage des mauvais gras et de trop manger des frites, ce qui va boucher vos artères et endommager la santé de votre cœur. Non, ce n'est pas l'objectif pour aujourd'hui. J'aimerais parler de l'autre cœur. Le cœur qui ne peut pas être opéré par un chirurgien. Le cœur qui contient nos émotions, nos sentiments, nos pensées, nos affections, notre vie intérieure, nos désirs, nos frustrations, tout ce que nous vivons au plus profond de nous-mêmes et que nous appelons le cœur. C'est de celui-là dont j'aimerais parler aujourd'hui. La parole de Dieu nous en parle abondamment du cœur, de ce cœur-là. Si vous lisez par exemple le livre du prophète Jérémie, vous allez vous rendre compte que il utilise ce mot-là plus que les autres prophètes de l'Ancien Testament. Jérémie était un homme de cœur. Il avait sur son cœur beaucoup de souhaits, de souffrances pour son peuple. Et il a reçu de la part de Dieu un diagnostic très clair concernant notre cœur. Regardez avec moi ce passage dans le livre de Jérémie au chapitre 17. Vous connaissez ce passage, il est très clair. C'est un diagnostic simple et précis, où il est dit, Jérémie chapitre 17, verset 9, « Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. » Il est tortueux. Jacob, on a fait avec cela le mot Jacob, tortueux, insidieux, tordu finalement, et méchant. Méchant, anache. Qui veut dire finalement irrémédiablement malade, incurable. C'est un diagnostic vraiment dur pour l'être humain. Tortueux et méchant par-dessus tout. Voilà l'état de notre cœur. Évidemment, avec un diagnostic de ce genre, on a souvent essayé de trouver quelque chose de plus positif. Mais enfin, il y a des gens qui font du bien, il y a des gens de bien. C'est une bonne personne, comme on dit. Et c'est vrai, mais le diagnostic divin n'en demeure pas moins vrai. Le cœur de l'homme et de la femme est tortueux et méchant. Et Jésus n'a pas dit le contraire. Jésus a même au contraire expliqué ce que ça veut dire. Regardez dans l'Évangile selon Marc au chapitre 7, où Jésus va expliquer ce que le cœur produit. Évangile selon Marc, chapitre 7, verset 21. Il est dit, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Vous y avez remarqué cette liste épouvantable et on pourrait la continuer par toutes les choses que nous connaissons encore aujourd'hui et qui pourraient s'ajouter à cette liste de Jésus qui est déjà catastrophique. Voilà ce qu'est le cœur de l'être humain. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Et pourtant, il y a dans la parole de Dieu une bonne nouvelle concernant notre cœur. C'est que lorsque nous acceptons Jésus comme notre sauveur, que nous vivons l'expérience de la conversion, le Seigneur nous donne un cœur nouveau. Regardez ce texte dans le livre du prophète Ézéchiel. On pourrait en prendre dans le Nouveau Testament, mais simplement pour nous rappeler que déjà dans l'Ancien Testament, c'est le programme de Dieu. Dans Ézéchiel au chapitre 36, à partir du verset 25, il est écrit ceci. Ézéchiel chapitre 36, verset 25. « Je répandrai sur vous une eau pure. » Et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Voilà ce que Dieu nous promet de faire au moment où nous acceptons que Jésus soit notre sauveur. Lorsque nous vivons cette expérience de la conversion, de la nouvelle naissance, Dieu promet de nous donner un cœur nouveau. Mais là, j'ai une question. J'ai une question parce que, comment se fait-il qu'ayant un cœur nouveau, nous continuions à vivre de la manière ancienne. Comment se fait-il qu'en ayant un cœur nouveau, nous avons l'impression qu'il y a encore des mauvaises choses qui sortent de notre cœur? Vous savez, les choix que nous faisons conduisent notre cœur. Ils dirigent notre cœur. Nos choix dirigent notre cœur. Et déjà dans l'Ancien Testament, le Seigneur était frustré par les choix de son peuple à qui il voulait donner un cœur nouveau, mais qui faisait des choix contraires à ce cœur nouveau. Regardez dans le livre de Jérémie à nouveau, où Dieu interpelle ce peuple, au chapitre 7 par exemple. Jérémie chapitre 7, là encore Dieu va faire un diagnostic et mettre le doigt sur le problème qui existe chez ces gens. Et vous voyez à quel point il nous ressemble. Jérémie chapitre 7, au verset 23, il est écrit ceci. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous ai prescrites, afin que vous soyez heureux. Et ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont suivi les conseils, les penchants de leur cœur mauvais. Ils ont été en arrière et non en avant. Dieu avait un plan pour ce peuple, comme il a un plan pour chacun d'entre nous, pour que nous soyons heureux. Et pourquoi le peuple d'Israël n'a-t-il pas été heureux? Parce qu'ils n'ont pas écouté la voix de Dieu, ils ont écouté les penchants de leur cœur mauvais. Nous avons le choix, soit d'écouter ce que Dieu met dans ce cœur nouveau, soit d'écouter ce que ce cœur mauvais que nous avons est encore en train de nous dire. Et vous savez très bien, qu'écouter les penchants de notre cœur mauvais entretient la pourriture à l'intérieur de nous. Mais vous savez, nous savons comment faire pour être finalement des bons pharisiens du 21e siècle. Nous sommes capables de ça et nous ne nous en rendons pas nécessairement toujours compte parce que nous savons comment nous devons nous comporter. Nous savons comment parler. Nous savons quelle bonne réponse donner. Nous savons comment exprimer la bonne théologie. Nous savons comment impressionner les autres par notre manière d'être, même par notre gentillesse, etc. Mais ça ne veut pas dire que le cœur dedans est pur. Parce qu'alors même que je fais quelque chose de bien pour n'importe qui d'entre vous, est-ce que vous savez ce que j'en pense? Ça, c'est mon cœur qui parle. Et de cette manière-là, notre cœur est encore impur malgré le bien que nous sommes capables de faire. Parce que nous savons ce qu'il est bien de faire, et nous le faisons, et c'est bien. Mais notre cœur n'est pas nécessairement ajusté avec ça. Il peut être en décalage avec ça. Je peux passer du temps à écouter quelqu'un qui me raconte sa misère. Je peux pratiquer toutes les techniques de l'écoute active, et penser au-dedans de moi, il m'ennuie à mourir, jamais il arrête. Le cœur reste impur. Et vous avez remarqué, même si les autres ne voient pas, je sais que Dieu voit dans mon cœur. Il voit ce que vous ne voyez pas et il voit ce que même moi-même je ne vois pas toujours. Dieu voit. Et finalement, qu'est-ce qui est important, ce que vous voyez ou ce que Dieu voit ? Je crois que l'important, c'est ce que Dieu voit. Il a cette vue panoramique extraordinaire. Il voit dedans, il voit dehors, il voit partout. Il est là. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 16, Jésus nous rappelle cette vérité importante. Et nous avons tendance à l'oublier parce que si Dieu voit dedans et dehors, nous ne le voyons pas. Donc nous avons tendance à oublier que Dieu voit dans notre cœur. Évangile selon Luc, au chapitre 16, au verset 15, Jésus dit « Vous, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. » Dieu connaît vos cœurs. C'est donc le regard de Dieu sur mon cœur qui est le plus important. Le regard de Dieu sur mon cœur est plus important que mon regard à moi sur moi-même ou que votre regard sur moi-même. Ce qui me préoccupe, c'est le diagnostic de Dieu, c'est le regard de Dieu. Il m'a donné un cœur nouveau, mais j'écoute encore les penchants de l'autre cœur. Alors, cette prédication n'est pas une prédication de Saint-Valentin. Cette prédication n'est pas une prédication pour vous dire de ne pas manger trop de graisse animale. C'est une prière. Seigneur, garde mon cœur. Et quand je dis Seigneur, garde mon cœur, je dis Seigneur, garde mon cœur de toutes les distractions qui peuvent me séparer de toi. Toutes les entreprises stupides, toutes mes recherches folles. Garde-moi, Seigneur, de toutes mes poursuites inutiles, de tous mes projets farfelus qui mangent toute mon énergie, tout mon temps, et qui me sépare de toi, parce que je veux me distraire avec autre chose. Tout ce qui va distraire, c'est-à-dire tirer à l'écart de toi. Seigneur, garde mon cœur, garde-moi de toutes ces distractions que je me donne. Quand je dis Seigneur, garde mon cœur, je dis Seigneur, garde mes affections. Ne permets pas que n'importe qui ou n'importe quoi vole mon affection. Je ne veux pas que n'importe qui et n'importe quoi prennent mon affection. Ne permets pas, Seigneur, que par mes affections, je fasse de celui-ci, de celle-ci ou de cette chose une idole. Ne permets pas, Seigneur, que j'aime quelqu'un ou quelque chose plus que toi. Parce que c'est lui qui doit être l'objet de toutes nos affections. Quand je dis au Seigneur, garde mon cœur, je lui dis, garde mon esprit. Garde-moi des erreurs, garde-moi des pensées qui sont mauvaises. Mais garde-moi aussi de penser des choses qui sont fausses. Seigneur, garde mes pensées captives de l'obéissance de Christ, comme l'apôtre Paul le dit dans l'Épître aux Corinthiens. Garde mes pensées. Et là, bien entendu, je pense à ce texte qui se trouve dans le livre des psaumes, vous le connaissez, le psaume 139. À la fin de ce psaume, le psalmiste exprime la même idée, psaume 139, verset 23. Psaume 139, verset 23, où il dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. » Seigneur, garde mon cœur, c'est-à-dire garde mes pensées. Parce que nos pensées courent et vont dans tous les sens, vous le savez bien. Il suffit de se mettre à genoux pour prier pour que nos pensées courent tout autour du monde. Vous avez remarqué? Seigneur, garde mon cœur. Quand je dis Seigneur, garde mon cœur, je dis Seigneur, garde-moi du malin. Garde-moi de l'ennemi. Garde-moi de péché. Garde-moi des pièges, garde-moi des tentations, garde-moi de tout ce que le diable met sur mon chemin pour me faire tomber à longueur de journée, que je ne vois pas toujours ou que je vois trop tard. Seigneur, garde-moi du malin, garde-moi de péché. Dans le psaume 19 se trouve un texte que je trouve extrêmement intéressant. Dans le psaume 19, il est dit ceci, David reconnaît ses limites. Et il dit au verset 13, psaume 19, verset 13, « Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore. » David est ici en train de demander à Dieu, « Seigneur, pardonne-moi les fautes et les péchés que je ne connais pas, parce que je suis capable, avec mon cœur mauvais, d'en faire sans m'en rendre compte. Pardonne-moi mes égarements inconnus. » Mais il ne s'arrête pas là. Le verset 14, permettez que je vous le lise dans la version du rabbinat français qui me paraît exprimer clairement ce que le texte est en train de dire. Psaume 19, verset 14. « Plus encore, préserve ton serviteur des fautes volontaires, qu'elle n'ait point le dessus sur moi. » C'est exactement le sens de ce texte-là. David est en train de dire à Dieu, « Pardonne-moi les fautes que je ne connais pas, mais pardonne-moi aussi les fautes que j'ai commises volontairement sans admettre que je les commettais. Et ne permets pas, Seigneur, que ces fautes-là dominent sur moi. Que je ne sois pas esclave de ces fautes que je commets sans l'admettre. Quand je dis « garde mon cœur, Seigneur », je dis « garde-moi du malin, garde-moi du péché ». Quand je dis « garde mon cœur », je lui dis « Seigneur, garde mes sentiments, l'orgueil, la peur, l'inquiétude, l'égoïsme, la colère. Garde-moi de ces sentiments qui ne sont pas les sentiments du cœur nouveau que tu m'as donné. Garde-moi de toutes ces émotions qui montent et qui descendent et qui m'épuisent le long du chemin. » Alors je pense à ce texte qui se trouve dans l'épître de Paul aux Philippiens. Regardez ce texte avec moi. Épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 4, où il est dit au verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Seigneur, garde mes sentiments. Garde-moi de toutes ces émotions qui montent et qui descendent, ces émotions non contrôlées et qui me volent cette paix du cœur dont il est question dans ce texte. Et vous savez à quel point nos émotions montent et descendent, au gré des événements, au gré des situations, au gré de nos faiblesses, ces émotions qui colorent notre vie de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, en couleur sombre et en couleur claire. Seigneur, garde mon cœur de tous ces sentiments qui ne sont pas les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quand je dis Seigneur, garde mon cœur, je veux dire par là Seigneur, garde-moi de la culture environnante. Garde-moi des pressions sociales. Garde-moi des modes qui accaparent mon temps, mon argent. Garde-moi des mentalités païennes qui courent aujourd'hui. Garde-moi de toutes ces modes sociales, religieuses, politiques, philosophiques, que je suis toujours tenté de coller avec mon christianisme pour rendre mon christianisme plus actuel, plus accessible, plus cool. Garde-moi, Seigneur, de cette culture environnante avec ses nouvelles valeurs. Ces nouvelles valeurs pour le culte, ces nouvelles valeurs pour la famille, cette nouvelle valeur pour l'Église, cette nouvelle valeur pour la manière de gérer notre vie. Garde-moi, Seigneur, de la culture environnante. Parce que le cœur que Dieu me donne est un cœur qui va à contre-courant. Et c'est dur d'aller à contre-courant. C'est pour cela que, de temps en temps, malheureusement, je suis les tendances de mon cœur ancien. Garde-moi, Seigneur, de la culture environnante. Et quand je dis « garde mon cœur, Seigneur », je suis en train de dire « Seigneur, garde-moi d'avoir un cœur qui est divisé. Garde-moi d'être dans cette situation où j'ai un pied dans l'Église et un pied en dehors, un pied chez toi et un pied en dehors. » D'avoir la moitié de mes affections attachées à toi et d'avoir l'autre moitié attachée à autre chose. Garde-moi, Seigneur, d'avoir un cœur divisé, partagé. Dans le psaume 86 se trouve la même supplication. Regardez ce texte avec moi. Psaume 86, au verset 11. J'aimerais lire ce texte dans une autre version, la version Darby, qui traduit ce passage littéralement. Darby dit ceci dans cette traduction du psaume 86, verset 11. « Unis mon cœur à la crainte de ton nom. Unis mon cœur. Que tout mon être te loue, Seigneur. Que ce ne soit pas juste une partie, parce que l'autre partie est attachée à des valeurs du monde dans lequel je suis 6 jours sur 7. » Unis mon cœur, que mon cœur ne soit pas divisé, que mon cœur ne soit pas partagé, que mes affections ne soient pas partagées, que mes intérêts ne soient pas partagés. Unis mon cœur à la crainte de ton nom, sans partage. Quand je dis « Garde mon cœur, Seigneur », je suis en train de dire « Garde-moi un cœur tendre, un cœur ouvert, un cœur capable d'entendre et de recevoir ta parole. Que mon cœur soit un récipient suffisamment grand pour recevoir tout ce que tu veux y mettre. Que mon cœur ne soit pas fermé. » Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 6, il nous est dit ce que le Seigneur veut y mettre. Entre autres, Deutéronome, chapitre 6, au verset 6, il est écrit, Deutéronome 6, verset 6, dès le verset 5, si vous voulez, « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. » La loi de Dieu, elle n'est pas écrite dans un livre, elle n'est pas collée sur le mur de notre maison. Le Seigneur veut la mettre à l'intérieur de notre cœur, qu'elle soit une nouvelle nature pour nous. La loi de Dieu, il ne veut pas qu'elle soit extérieure à nous, il veut qu'elle soit intérieure. Et qu'elle ne soit pas simplement dans notre tête, c'est-à-dire que nous soyons capables de réciter les 10 commandements sans nous tromper du premier au dernier. Il veut que cette loi, elle soit dans le cœur. Et je vous rappelle, nous sommes ici dans le cœur de l'Ancien Testament. Quand je dis « Seigneur, garde mon cœur », je suis en train de lui demander « Seigneur, permets-moi de vivre ta loi naturellement » par la puissance de ton esprit en moi. Quand je dis « garde mon cœur », je lui dis en réalité ce que le psalmiste disait dans le psaume 139 où on était tout à l'heure. Il lui dit « regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité ». Quand je dis « Seigneur, garde mon cœur », je suis en train de lui dire « s'il te plaît, regarde dans mon cœur » et dis-moi ce qui ne va pas. Je suis prêt à entendre ta voix qui me dit, voilà, dans ton cœur, il y a ceci et il y a cela. Quand je dis, garde mon cœur, Seigneur, je lui dis, regarde dans mon cœur ce qui s'y trouve. D'ailleurs, c'est lui qui le sait le mieux, ce qui s'y trouve dans mon cœur. C'est lui seul qui peut me dire et me donner l'heure juste sur ce qui se passe dans mon cœur. Quand je dis, garde mon cœur, Seigneur, c'est tout cela que je lui dis. Garde tout ça de mon cœur. C'est un peu comme si je commençais à comprendre que mon cœur, ce cœur dont nous parlons ce matin, c'est ce que j'ai de plus grande valeur dans ma vie. Vous savez, quand il y a quelque chose qui a beaucoup de valeur, on ne le met pas sur une table au bord de la route pour que tout le monde puisse regarder. Les joyaux de la reine, vous pensez qu'ils sont sur le trottoir juste avec un bobby à côté pour que tout le monde puisse tripoter et regarder les belles couronnes de la reine d'Angleterre? C'est dans un coffre, c'est dans une pièce fermée, à la bonne température, à l'abri des regards, à l'abri des intempéries, c'est sous alarme. Est-ce que notre cœur est sous alarme? Est-ce que notre cœur est enfermé dans cette forteresse parce que c'est ce que nous avons de plus précieux? Est-ce que nous en prenons soin en le préservant des intempéries, des circonstances qui bouleversent notre cœur? Est-ce que nous en prenons soin pour l'enfermer et le mettre à l'abri de ceux qui veulent l'influencer, pour nous faire faire ce qu'eux veulent qu'on fasse? Est-ce que notre cœur est protégé? Est-ce qu'il est sous l'alarme du Saint-Esprit? Garde mon cœur, Seigneur. David était un homme selon le cœur de Dieu. Et pourtant, on regarde sa vie, on n'a pas l'impression que David a toujours été selon le cœur de Dieu. Mais quand David a écouté les penchants de son cœur et que Dieu est venu lui voir et qu'il lui a dit « Tu es cet homme-là », David a réécouté la voix de Dieu en lui, et il a vécu la confession, la repentance. C'est pour ça qu'il était un homme selon le cœur de Dieu. C'est parce qu'il était capable encore d'entendre Dieu et de revenir en arrière. Dans le psaume 51, qui est ce psaume de repentance extraordinaire que David a écrit, se trouve ce verset, au verset 12, où il dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Quand je dis « Seigneur, garde mon cœur », je suis en train de lui dire « Renouvelle, crée, fabrique par ta puissance en moi un cœur pur. » Et je suis invité à collaborer avec lui. Parce que ce cœur pur que je demande, ce cœur gardé, protégé par le Seigneur, a quelque chose à voir d'essentiel avec mon salut. Vous vous souvenez de ce que Jésus a dit dans le sermon sur la montagne, dans Matthieu au chapitre 5 et au verset 8. Matthieu chapitre 5, verset 8, l'une de ses béatitudes, il est dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Ça veut dire que si mon cœur n'est pas pur, je ne verrai pas Dieu. Ceux qui verront Dieu, ce sont ceux qui ont un cœur pur. Parce que ce sont ceux qui, après toute leur vie, offrent ce qu'ils ont de plus important, ce qui pour eux a le plus de valeur. C'est ça qu'ils donnent à Dieu, un cœur pur. Parce que c'est une manière de dire à Dieu, je te donne le meilleur de moi-même, je te donne ce que j'ai de plus important, de plus grande valeur. Parce que tu ne mérites pas moins. Tu es unique, unique pour moi, alors je te donne ce que j'ai de mieux. Et vous savez, le Seigneur essaie de nous apprendre ça dans notre vie. Parce que la parole de Dieu nous enseigne, nous aussi, à avoir un cœur pur, un corps pur pour le mariage. De façon à ce que nous puissions offrir à notre conjoint le meilleur cadeau que nous ayons, en lui disant « Tu ne mérites pas moins parce que tu es l'unique pour moi. » C'est une manière par laquelle Dieu veut nous enseigner que lorsque Jésus reviendra, l'époux de l'Église, nous sommes invités à lui donner aussi un cœur pur, le mieux que nous ayons, ce que nous considérons comme ayant le plus de valeur parce qu'il en est digne. Digne est l'agneau de recevoir ce que nous avons de mieux. Alors, quand Jésus reviendra, comment sera le cœur que je vais lui offrir? Dans quel état sera le cœur que je vais lui donner? Est-ce que la pureté de mon cœur va lui dire, Seigneur, pour moi, tu es unique, je te donne le meilleur de moi-même, je te donne finalement ce que tu as purifié toi-même, ce que tu as pardonné par ton sang. Alors, si je veux me préparer au retour de Jésus, il faut que je me pose la question, dans quel état va être le cœur que je vais lui donner lorsque Jésus va revenir? Seigneur, garde mon cœur. Amen.